Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous nous parlez aujourd'hui des Allemands, de la culture allemande. Vous avez commencé à nous présenter hier le livre publié par le grand sociologue allemand Norbert Elias, un an avant sa mort, intitulé « Les Allemands ». Alors c'est pas vraiment un livre d'histoire, de quoi est-il question? De l'esprit des peuples?
Non, rassurez-vous, Elias était éloigné de ces théories qui essentialisent les cultures à force d'en chercher les invariants. Lorsqu'il écrit l'expression « caractère national », il y ajoute des guillemets. Ce qui l'intéresse, c'est l'habitus, au sens d'ensemble de normes devenues pour les individus d'une collectivité comme une seconde nature. Et lorsqu'il étudie l'habitus national des Allemands, il précise aussitôt que celui-ci ne lui apparaît pas comme biologiquement déterminé, mais évolutif. Et s'il fait parfois appel à des comparaisons entre les cultures européennes, notamment entre l'allemande et la britannique ou la française, c'est en soulignant chaque fois qu'il ne croit pas à des caractéristiques ethniques. Mais il ne s'interdit pas non plus de voir dans les cultures nationales le produit de leur histoire. Alors ce qui serait spécifique au cas allemand, ce serait, je le disais hier, la défaite politique de la bourgeoisie face aux aristocrates au XIXe siècle. Cette aristocratie n'a pas été chassée et en partie exterminée comme en France. Elle est demeurée une caste fermée, contrairement à la gentry britannique qui s'est embourgeoisée. La société allemande est demeurée une société d'État, presque de caste, quand les sociétés occidentales étaient devenues des sociétés de classe. Appauvrie, cette noblesse allemande a compensé son sentiment d'insécurité par une obsession de la pureté de son lignage. Le nazisme aurait en quelque sorte popularisé cette idéologie en la transposant au peuple allemand tout entier. De même que les aristocrates, de par la pureté de leur sang, avaient vocation à dominer les Allemands, eh bien ceux-ci auraient constitué une nouvelle aristocratie européenne destinée à vaincre et à soumettre les autres peuples.
Et quelles sont les spécificités justement relevées par Norbert Elias de cette culture allemande sous influence aristocratique?
Très significatif, l'usage courant du duel. Norbert Elias consacre à ce sujet un chapitre passionnant. Jusqu'à la guerre de 14, cette coutume persista en Allemagne. Donner satisfaction d'une offense perçue était le privilège des membres de la bonne société. Et les duels faisaient partie du rituel des associations estudiantines. Le duel ressortit manifestement de l'ancien code guerrier, en vertu duquel le plus habile au maniement des armes mérite sa supériorité. Mais il manifeste aussi le privilège détenu par une élite sociale de contester à l'État le monopole qu'il est censé exercer sur l'usage de la violence. Comme écrit Elias, le code d'honneur de la noblesse avait priorité sur les lois de l'État. Mais la différence entre le duel et la bagarre de rue est révélatrice. Le duel constitue un affrontement ritualisé. Son déroulement exige une stricte maîtrise de soi et en particulier, il proscrit l'expression de sentiments hostiles. C'est un affrontement entre hommes du même monde appartenant aux mêmes castes. Alors le problème de l'Allemagne wilhelmienne, c'est que l'éthos guerrier, qui était celui des officiers issus de la noblesse, a fini par donner le ton à l'ensemble de la société. Au fond, écrit Elias, les gens étaient éduqués, dès qu'ils se trouvaient face à un plus faible, à frapper plus fort pour lui faire sentir sans équivoque la supériorité qu'on avait sur lui. La faiblesse était méprisable. Alors les nazis ont hérité de cette culture et ils l'ont poussée jusqu'à la caricature. L'évolution de ces sociétés estudiantines est très révélatrice. Depuis l'occupation napoléonienne jusqu'à la victoire sur la France de 1870, elles avaient été dominées par une forme de patriotisme libéral. Leur rêve était celui de la révolution de 1848, la Grande Allemagne incluant les régions germaniques de l'Autriche. Or l'unité nationale, comme on sait, se fit par la Prusse et par la voie de la guerre. Et le chancelier Bismarck opta pour la petite Allemagne. Et c'est la caste des officiers qui put s'attribuer ainsi le mérite de l'unification du pays. À partir de ce moment, Elias y revient à plusieurs reprises, la morale kantienne fut considérée comme une rêverie de bourgeois libéraux, son impératif catégorique comme le canon moral des classes moyennes. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle postule l'universalité des règles qu'elle édicte, et donc l'égalité de statut entre toutes les classes sociales, impensable dans une société de caste. La seconde, c'est qu'elle accorde trop de crédit à la conscience individuelle et pas assez au contrôle par les pairs. Or, la bonne société wilhelmienne exigeait de ses membres, je cite, un maintien rigoureux sous le regard des autres, une forte contrainte personnelle. Et c'est d'ailleurs pourquoi les Français jugeaient les Allemands rigides et parlaient de leur formalisme ostentatoire. Une éthique de la dureté envers soi et envers les autres se développa en particulier au sein de ces fameuses associations estudiantines. Porter une balafre au visage ou sur le crâne faisait partie des signes d'appartenance souhaitables. C'est pourquoi on y organisait d'ailleurs, à l'usage des nouveaux venus, des bisus, des rencontres imposées qui avaient pour but de tester leur courage. Qui se montrait faible ne valait rien. Mais cette classe supérieure, quoique très arrogante, sentait monter face à elle, à la veille de la Grande Guerre, le mouvement ouvrier. Se sentant menacée, elle était prête, dit Elias, à combattre jusqu'au bout pour défendre ses positions jusqu'à une fin cruelle.